tous.
Seigneur vous bénisse, ça va bien ce soir?
C'est l'hiver, ça commence.
Ça a le bouton là.
Ça tousse, ça mouche. C'est parti pour l'hiver. Je vois qu'il y a des écharpes qui sont sorties aussi. Bien, bien, ce soir on va lire dans Matthieu chapitre 5, verset à partir du verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute, qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, transportés d'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Ce soir, on va toucher du doigt les richesses célestes. C'est une étude que je commence sur donc le sermon sur la montagne. J'ai commencé le dimanche passé. En fait, presque tous ceux qui se disent chrétiens connaissent au moins une béatitude. Hein. Ce soir, on va se poser trois questions au sujet des béatitudes. Ça ne va pas répondre à tout ce qui est à dire à ce sujet-là. Je pense qu'il faudra qu'on revienne encore dimanche là-dessus, parce que c'est d'une telle profondeur. La première question, c'est: de qui parlent les béatitudes? De qui? Les béatitudes nous montrent les différentes facettes d'une personne qui est réellement disciple de Jésus-Christ. Ce sont pour les personnes qui sont réellement disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas heureux les pauvres en esprit dans le monde entier, n'importe qui, tous ceux qui... Non. Ça s'adresse à des disciples de Jésus-Christ. Il y a 8 béatitudes, mais elles ne décrivent pas 8 sortes de personnes. Ces 8 béatitudes ne décrivent pas non plus 8 groupes de disciples. On ne peut pas dire, voilà, je fais partie du groupe de ceux qui sont doux. Par contre, je ne suis pas miséricordieux, donc ça ne va pas. Vous comprenez? On a tous à avoir à faire avec ces 8 béatitudes. Maintenant, elles tracent 8 traits qui caractérise véritablement les disciples authentiques de Jésus-Christ. Le vrai disciple de Jésus-Christ, il est doux et miséricordieux. Il ne peut pas être miséricordieux sans être doux, ni l'inverse. Enfin, il est pauvre et pur de cœur. Il est attristé et affamé, artisan de paix et martyr, toujours. Toujours. Maintenant, ce ne sont pas les traits d'une élite. Ce n'est pas, si vous voulez, une sorte d'aristocratie spirituelle qui sort du lot des chrétiens normaux de base. Non. C'est pour tous les chrétiens. Ce que Jésus dit là, c'est pour tous les chrétiens. Il nous dépeint ce que devrait être tout chrétien, c'est-à-dire tout disciple accompli de Jésus-Christ. Parce que c'est ça un chrétien. Comment j'en ai marre? Je crois qu'un jour je vais publier quelque chose pour dire « j'en ai marre de dire que je suis chrétien ». Je ne suis plus chrétien. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Parce que chrétien, ça ne veut plus rien dire. Vous avez plein de gens qui disent « je suis chrétien », mais qui ne le sont pas, en réalité. Alors, il faut nous différencier. Donc, nous ne sommes plus des chrétiens. Voilà, on a fait une croix là-dessus. On n'est plus des chrétiens, on est des disciples de Jésus-Christ. C'est autre chose. Autre chose. Alors, vous savez que dans toute la parole de Dieu, il nous est parlé de ce que produit le Saint-Esprit dans la vie d'un disciple, de quelqu'un qui se consacre à Jésus-Christ. Et on appelle ce produit-là, ce que le Saint-Esprit produit, on appelle ça les fruits de l'Esprit. Eh bien, de même, les 8 béatitudes décrivent le projet de vie de tous ceux qui veulent devenir véritablement citoyens du royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel. Pour ce qui est des dons surnaturels, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le Saint-Esprit accorde à qui il veut de manifester quelque chose pour servir dans le royaume de Dieu, au milieu des citoyens du royaume de Dieu, mais c'est à chacun en particulier comme il veut, et ce n'est pas tout le monde qui peut dire, voilà, j'ai les dons de l'Esprit, j'ai tous les dons de l'Esprit. Non. Mais par contre, le Saint-Esprit veut développer toutes ses grâces à la fois, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, mais aussi les traits de caractère qui sont là dans les béatitudes. C'est pour tout le monde. On n'échappe pas à une en disant « Non, moi, je ne veux pas de celle-là. Non, je veux pas. Non, non, moi, je ne me sens pas poussé. » Non, non, c'est pour tout le monde. Aucun de nous peut échapper à la responsabilité de cultiver ces traits de caractère. Maintenant, c'est clair, on va voir une autre question. C'est clair. On va voir une autre question. Quelles sont les intentions et les attitudes auxquelles les béatitudes nous appellent, font référence? Alors, voyons d'abord quelque chose d'intéressant. Si on lit Matthieu 5, 3, on lit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». On l'a lu tout à l'heure. Maintenant, si on lit les béatitudes dans Luc 6, 20, on lit « Heureux êtes-vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Vous avez vu la différence? Heureux les pauvres en esprit et heureux les pauvres. Heureux vous les pauvres. Ah. D'un côté, nous avons des pauvres en esprit, d'un autre côté, on n'a que les pauvres. De même, dans Matthieu 5, 6, il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Et puis dans Luc 6, 21, il est dit « Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés ». Alors les théologiens, pas tous, hein, mais certains, ceux qui sont publiés en général, les théologiens, n'est-ce pas, ils pensent que, hein, comme Moïse, je vous ai dit ça l'autre jour à la réunion de prière, Moïse, il pensait que il allait être compris par le peuple hébreu. Ben, ils s'étaient trompés, ils n'ont pas compris. Et les théologiens, ils pensent que, c'est pas bien de penser que, il faut être sûr. Ben, c'est la parole de Dieu, je l'ai regardée dans tous les domaines, dans tous les sens, voilà, je suis sûr. Alors ces théologiens, ils pensent que Luc est plus authentique que Matthieu. Voilà. Hein? Ils disent, Jésus s'occupait des vrais gens. Il portait un jugement social qui concernait les pauvres, qui concernait les gens qui ont faim. Et dans Luc, on trouve beaucoup de textes. Il nous est dit que Jésus nourrissait les pauvres. Il promettait de la nourriture à ceux qui sont sous-alimentés. Alors, ils disent, voilà, Matthieu, lui, il est venu et il a tout spiritualisé. Ah, c'est comme ça, hein. Si vous lisez les bouquins de théologie, vous allez trouver ça. Si vous allez dans les écoles bibliques, on va vous dire aussi cette vue-là des choses. Et puis après, vous parlez avec des chrétiens rétrogrades qui vous disent « Oui, mais voilà !» Puis alors, ils vous citent des trucs. Nous, il nous faut être au courant des choses, de la réalité. Oui, alors, les promesses qui étaient bien terre à terre de Luc, Matthieu, il en a fait des affaires d'ordre spirituel, n'est-ce pas? Alors, ça signifierait, un, que Jésus s'est contredit, ou alors que les apôtres ont été maladroits, puis ils ne se sont pas vraiment concertés pour pouvoir écrire leurs trucs, et puis voilà. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Dans Matthieu, on voit Jésus qui refuse de changer des pierres en pain. Ah, ça vous voyez, il est très spirituel. Là. Qui refuse l'idée d'établir un royaume terrestre. Vous voyez, on dirait, ah, voilà, on pourrait dire qu'il est uniquement occupé des choses de l'esprit. Quand la foule veut faire de lui un roi terrestre, il dit non et il s'enfuit, il va dans les collines, il va se cacher. Ah, vous voyez, qu'il s'occupe que des choses spirituelles. Hein, quand Pilate lui demande, mais alors, d'après ce que les pharisiens me disent, tu as des ambitions politiques, Jésus dit non, 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 mon royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez, c'est ce qui fait dire aux théologiens, Matthieu, tu es hyper spirituel. Bon. Voilà la vérité. Le fondement et la nature du royaume de Dieu sont d'un autre monde. C'est vrai. Mais tout cela ne peut pas nous induire en erreur, parce que Jésus, il n'a jamais été indifférent aux misères des gens, à la pauvreté, à la faim physique des gens. La preuve, c'est qu'il a nourri des foules. Est-ce que vous savez qu'il donnait de l'argent? Il donnait de l'argent aux gens, l'argent des sous. Hein, par exemple, souvenez-vous, quand Judas est sorti pour aller le trahir, les disciples ont pensé que, vous voyez aussi, ils ont pensé que, ben, ils sont trompés aussi quand on pense que. Souvent, on se trompe quand on pense que. Eh bien, ils ont pensé que Jésus avait dit à Judas, ben, écoute, va donner de l'argent aux pauvres. Vous trouvez ça dans Jean, chapitre 13, verset 29. Ils se sont trompés. Mais s'ils ont pensé que Judas sortait pour donner de l'argent aux pauvres, comme Jésus le disait souvent, c'est que Jésus le disait vraiment souvent. Ça veut dire que l'argent qui était dans la caisse était fait pour être distribué aux pauvres aussi. D'accord? Mais il nous faut voir là dans l'Écriture, non pas une contradiction, non pas une maladresse des disciples, mais la volonté de Dieu. Dieu a voulu que Matthieu écrive comme ça et que Luc écrive comme ça pour nous indiquer que les bénédictions du royaume, elles ne consistent pas premièrement dans des choses matérielles. C'est ça que Dieu veut que nous comprenions. Que les promesses du royaume ne concernent pas premièrement notre amélioration financière, économique. Aussi, mais pas que, et pas premièrement. Frères et sœurs, ce que je vais dire là, ça va faire sauter au plafond tous les inconditionnels de l'évangile de la prospérité. Écoutez bien. De même que la pauvreté peut constituer la circonstance au travers de laquelle on va être béni de Dieu, de même, la richesse, elle peut devenir un obstacle à la bénédiction de Dieu. C'est vrai. Il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai. Alors bon, ça ne veut pas dire maintenant que la pauvreté en soi est une chose qu'on doit désirer et puis que Jésus bénit particulièrement. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Il y a les deux côtés. Il faut être équilibré. L'Église apostate, elle, n'a pas été équilibrée. Elle a toujours utilisé les béatitudes pour faire l'éloge de la pauvreté volontaire. Hein, c'est tout juste, il ne disait pas tout de suite, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est-à-dire, oui, mais les petits-enfants, ça, oui, les enfants, on ne dira rien, mais bon, voilà. Mais les petits-enfants, ils se sont drôlement enrichis en prêchant la pauvreté, hein, quand même aussi, il faut le dire. Alors, que dire, finalement? Que dire de tout ça? Eh bien, la pauvreté et la faim dont parle Jésus dans Matthieu et dans Luc, c'est bel et bien, Jésus fait bel et bien allusion à des états spirituels. Premièrement, Jésus bénit ceux qui se savent pauvres en esprit, pauvres en eux-mêmes. Et Jésus bénit ceux qui ont faim et soif de justice. Luc, en fait, il dit la même chose que Matthieu, quand on regarde tout le contexte. Et comme ça, c'est vrai, eh bien, les autres caractéristiques énumérées dans les béatitudes là, elles sont aussi d'ordre spirituel. Aussi d'ordre spirituel. Vous voyez, il y a une analogie de la foi. La Bible ne se contredit pas. Mais si vous prenez un texte ici et un texte là, eh bien, vous pouvez dire, ah, vous voyez, hein, là, il parle des pauvres en esprit, puis là, il parle des pauvres. Alors, on peut prendre dans la Bible ce qu'on veut, puis lui faire dire ce qu'on veut. Non, ce n'est pas vrai. Il faut prendre tout le message et à partir de là, on peut avoir une idée précise, exacte. Ce soir, on va passer à autre chose, une troisième question. Quelles sont les bénédictions promises alors? Quelles sont les bénédictions promises? Eh bien, mes frères et sœurs, il y a des choses qui plaisent à Dieu et ceux qui manifestent ces choses sont déclarés bénis par Dieu, déclarés heureux par Dieu. Heureux, du grec makarios. Ça signifie pas heureux, c'est oh, comme ils sont heureux. Voilà, c'est une exclamation, c'est ça. Jésus ne nous donne pas une recette pour être heureux. Arrangez-vous pour qu'on vous insulte et qu'on raconte toutes sortes de choses contre vous, comme ça vous serez heureux. C'est pas ça. Il ne nous donne pas une recette pour être heureux. Les béatitudes ne sont pas la théorie de Jésus sur le bonheur. Vous voulez connaître le bonheur? Eh bien, je vais tout faire pour que vous soyez heureux. Je vais vous envoyer des contradicteurs, des persécuteurs, je vais vous envoyer des gens qui vous affament, je vais vous faire connaître des riches qui sont pingres, etc. etc. Vous voyez? Non, pas du tout. C'est pas ça la théorie de Jésus. On va regarder sérieusement. Les béatitudes, elles nous parlent des forces de l'amour et des forces de la foi. Elle nous parle des béatitudes de la foi que nous manifestons. Ça, c'est notre part. Nous manifestons la foi, parce que la foi, c'est toujours une œuvre. Et puis Dieu, de son côté, il manifeste son amour. Il le met en pratique. Hein, il dit, voilà, si vous manifestez votre foi, alors je fais ça par amour pour vous. Le roi, le père, par amour pour nous. L'amour et la foi, ça peut vaincre le désordre qui pourrait régner dans la vie d'un chrétien qui n'aurait pas entendu ces choses, qui ne connaîtrait pas ces choses. La foi et l'amour, ça peut vaincre les peurs qu'on peut avoir sur le chemin pendant que nous sommes en train de marcher dans notre vie chrétienne. La foi, que nous avons et l'amour qui se déverse de nous, sur nous par le Père, ça peut détruire la colère qui peut être engendrée, n'est-ce pas, par toutes sortes de choses qui peuvent survenir, la foi que nous manifestons et l'amour que Dieu répand sur nous par son esprit peut vaincre nos complexes d'infériorité. Et Dieu sait si très souvent, on s'arrange, les gens s'arrangent pour nous faire sentir qu'on est des gens inférieurs. La foi, c'est ce qui nous conduit à l'obéissance au commandement de Dieu. À obéir, à faire, à ne pas se borner à écouter, mais à mettre en pratique. Et alors c'est en obéissant qu'on parvient à un épanouissement réel de vie, de fils et de filles de Dieu. Réellement, en obéissant, en nous soumettant à la bonne volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une relation absolument étroite entre la sainteté et le bonheur, et tous les vrais chrétiens le savent. Il y a une relation étroite entre la sainteté et le bonheur. Mais le mot « makarios » que les traducteurs ont choisi dans le grec ne signifie pas que nous avons à nous sentir heureux. Parce que se sentir heureux quand on se sait pauvre en esprit, je ne peux pas dire « Ah, oh, qu'est-ce que je me sens heureux d'être pauvre en esprit. Ah, oh, qu'est-ce que je me sens heureux d'être persécuté par Itiel. Ah, oh, qu'est-ce que je me sens heureux d'être embêté par tout le monde. Qu'est-ce que je me sens heureux d'être accusé d'être un PD ou d'être un, hein, comme en ce moment on m'accuse, ou d'être un ramasseur d'argent ou des choses comme ça. » Non, je ne peux pas être heureux, me sentir heureux. Non. Jésus dit que c'est Dieu qui pense de nous que nous sommes heureux et que nous sommes bénis. Alors, en quoi consiste cette bénédiction? Eh bien, tout cela, c'est dans les béatitudes. Une personne qui a les traits, qui développe les traits qui sont décrits dans les béatitudes, elle possède le royaume des cieux. Elle héritera de la terre, elle sera consolée, elle sera rassasiée, elle obtiendra miséricorde, elle sera appelée fille de Dieu. Elle aura une grande récompense dans le ciel. Elle verra, elle voit Dieu. Ces 8 bénédictions, ça forme un tout. C'est des choses qui sont promises à tous les disciples accomplis de Jésus-Christ. Alors c'est vrai que chaque bénédiction promise va avec une situation précise. Il se peut que par moment vous ne soyez pas persécuté. Je ne suis pas continuellement persécuté. Je ne suis pas continuellement embêté par des gens. C'est pas tout le temps, il y a des moments, mais ça arrive à chaque chrétien, oui ou non? Ça arrive à chaque chrétien. Alors, regardez bien, il est impossible d'hériter le royaume des cieux sans posséder la terre. Il est impossible d'être consolé sans être rassasié. Il est impossible de voir Dieu sans obtenir miséricorde. Et il est impossible de voir Dieu sans être appelé ses enfants. Donc, voyez que tout ça, ça va ensemble. Même si toutes les choses ne nous arrivent pas en même temps. Vous voyez? Alors, mes frères et sœurs, ces 8 situations, elles décrivent la responsabilité et les 8 bénédictions qui en découlent décrivent les privilèges des citoyens du royaume de Dieu. Ces bénédictions, elles concernent le présent et le futur. La première bénédiction, elle est pour le futur, dans Matthieu. Il nous dit, dans le royaume des cieux. Ça, c'est au futur, parce que pour le moment, on n'y est pas, on est sur la terre. Mais dans Luc, il ne dit pas dans le royaume des cieux, il dit dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est l'Église, c'est-à-dire la communauté. Jésus, il nous bénit dans l'Église, c'est-à-dire dans le royaume terrestre, dans le royaume de Dieu terrestre. Donc, c'est pour le présent et pour l'avenir. Et si c'est vrai pour la première, c'est vrai pour toutes. Dans les 8 bénédictions, il y a « heureux ». Êtes-vous ? Vous êtes. Vous êtes. Par exemple, la 8e, celle qui conclut tout, elle dit « heureux êtes-vous ». Ça, c'est au présent. Et ensuite, il y a une deuxième chose. « Votre récompense sera grande dans le royaume des cieux ». Dans la 8e béatitude, c'est présent et futur. Et dans la première, c'est présent dans Matthieu. Non, le contraire, c'est futur dans Matthieu et présent dans Luc, pour nous montrer que c'est toujours présent et futur. C'est pas seulement vous serez appelés fils de Dieu plus tard, on est déjà maintenant. C'est présent et futur. Mes frères et sœurs, je dis que toutes ces 8 béatitudes nous parlent du présent et du futur. Parce que nous sommes déclarés ici Et maintenant, dans les béatitudes, heureux, déclaré heureux. Même au milieu de la persécution, même si on ne sent pas là, d'être heureux, on ne sent pas. Même au moment où on dit toutes sortes faussement de vous des choses, on ne sent pas que oh, je suis content. Non, ce n'est pas vrai. Jésus, il nous demande pas de frissonner de bonheur et de délices pendant qu'on nous insulte. Ce n'est pas vrai. Vous êtes déclaré heureux par Dieu au présent. Heureux, du grec makarios. Jésus ne parlait pas le grec. Voilà le problème. Ça, c'est les apôtres, ils ont écrit en grec. Parce que c'était la langue que tout le monde parlait, puis il voulait que l'évangile soit prêché par tout le monde. Mais Jésus, il n'a jamais dit makarios. Makarios ? Il n'a jamais dit makarios. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit achéri. Achéri. Achéri, c'est une exclamation au pluriel construit qui vient d'une racine, la racine achar, qui implique l'idée d'une rectitude. Yachar. Excusez-moi la prononciation. Ça indique quoi ? Ça indique la rectitude d'un homme qui est en marche sur une route absolument sans obstacle et qui mène à Adonai. Voilà ce que ça signifie, heureux. Présentement, là, tout de suite, vous êtes déclaré par Dieu comme étant sur la bonne route, sur le bon chemin, droit, tout droit, qui mène tout droit à Dieu dans le royaume des cieux et il n'y a pas d'obstacle. Pas d'obstacle. C'est ça qui fait que vous pouvez quand même vous sentir un petit peu heureux. C'est de le savoir. C'est de le savoir. Ce chemin, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin. Nous sommes en Jésus. Nous sommes dans le chemin. Nous sommes en celui qui règne. Dans celui qui règne dans la véritable Église sur terre et celui qui règne dans les cieux. Nous sommes en celui qui règne sur l'Église, qui est constituée elle-même de ceux qui marchent en progression dans les 8 caractéristiques qui sont le lot de tout véritable disciple. Alors dimanche, je vais revenir sur ces choses, mais je vais déjà vous dire quelque chose. Vous êtes heureux, vous êtes en marche sur le chemin, déjà ici-bas, dans le royaume terrestre de Dieu, et en direction vers le royaume des cieux, de Dieu dans les cieux. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle sur le chemin. Vous allez me dire, ben dis donc, la faim, la soif de justice, ça me tord les boyaux. Je me sens tellement faible en esprit et je voudrais tellement être plus fort. Ça me rend malade des fois. Hein? Je suis doux et on me marche sur la tête. Je suis gentil et on me dit que c'est par intérêt, etc., etc., etc. Eh bien, dis donc, c'est pas des obstacles. Non, c'est pas des obstacles. C'est pas des obstacles. Ni votre pauvreté spirituelle ou matérielle due à la dureté des riches, ni à la pauvreté spirituelle dont vous avez conscience, ni tout ce qui pourrait vous faire pleurer, ni tous ceux qui sont durs et arrogants avec vous, ni tous ceux qui fabriquent l'injustice, ni les hautains, ni les menaçants et tout ce qu'ils peuvent faire, ni les impurs de cœur, ni ceux qui attisent la guerre sans cesse, ni ceux qui vous persécutent à cause de ce qui est juste, eh bien, ni ceux qui vous insultent et qui répondent contre vous toutes sortes de méchancetés qui sont fausses, rien de tout ça, c'est des obstacles. Ça n'est pas des obstacles. C'est quoi ? C'est rien ! C'est du néant ! C'est rien ! Du néant, du vent ! Voilà ce que c'est ! C'est des paix du diable. Voilà ce que c'est. Rien du tout. Rien du tout. Vous allez me dire, oui, mais ça me fait mal quand même. Oui, ça pue un peu. C'est vrai que c'est dégueulasse. C'est vrai qu'il y a de temps en temps de quoi un petit peu se révolter. Mais tout de suite, on revient dans la droiture. Parce qu'on s'est dit, Seigneur Jésus, tu nous avais avertis. On sait bien que ça nous arrivera. Seigneur, on sait bien que ce n'est pas beau, c'est pas formidable sur cette terre. Mais on va faire tout notre possible pour que ça soit mieux. Et on va rendre gloire à ton nom en ayant les bonnes attitudes. Amen. N'est-ce pas ça la vérité ? Bien sûr que ça peut, de temps en temps, quand vous avez le diable qui fait « ça fait sursauter, comme je vois quelques-uns qui sursautent quand je fais ça dans la salle. Mais bon, la vie continue. Et puis tout s'est écrit. Vous savez, la sœur Camélia, ma vieille maman gitane, elle me disait, le diable, c'est un chien enragé. Il court pour venir te mordre. Et tu le vois arriver. Il a des grandes dents. Et il grogne, il aboie. Il a l'air tellement méchant. Mais au moment où il arrive vers toi, il a une chaîne qui le retient. Oh, il ne peut pas te mordre. Simplement, toi, ne t'approche pas. Laisse-le. marche, les yeux fixés sur le but, sur la rémunération, les yeux fixés sur le royaume des cieux. Tu es là dans le royaume de Dieu sur la terre, va de l'avant, marche. Ça grogne à gauche, ça grogne à droite, je ne me laisserai pas impressionner. Je vais tout droit, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai reçu, je sais que c'est Dieu qui l'a fait et qui continuera à le faire. Que Dieu soit béni. Amen. Ce chemin est droit. Ce chemin est droit. C'est Jésus le chemin. Alors tant pis pour le diable et pour tous ses suppositoires. Oh, c'est pas grave, on s'en fiche, on s'en fiche. Que Dieu les bénisse même à la limite. Si, oh, on peut les bénir en plus, ouais, c'est quand même extraordinaire. On peut les bénir, c'est merveilleux, c'est presque de l'humour. Mais je trouve qu'en français, vous voyez, on dit toujours l'hébreu, c'est griche, l'anglais, l'amour, tout ça, c'est le grec, c'est formidable. Mais regardez en français. L'amour et l'humour, c'est des mots qui se ressemblent beaucoup. Je pense qu'il faut avoir aussi de l'humour en face de ceux qui aboient comme des chiens. Que Dieu les bénisse, c'est très drôle. Amen. Merci Seigneur Jésus de nous garder dans ta paix, de permettre que nous puissions aller de l'avant. Merci de nous avoir avertis en nous donnant ces merveilleuses béatitudes. Merci de nous avoir consolés avec ces paroles merveilleuses qui font un tout avec le reste de toutes les Écritures. Merci Jésus. Amen et Amen. Amen.